Bonsoir à toutes et à tous. Je suis émerveillé. Vous êtes magnifiques. Tout ce qui se passe ce soir est magnifique et montre une chose, c'est qu'il n'y a des choses qui ne sont possibles que par Dieu. Tu veux voir Dieu ? Il est là ce soir, dans cette magnifique lumière qui vient nous habiter et que vous savez si bien faire vivre. Je vais vous proposer de fermer les yeux et de prendre 5 profondes respirations. Et ensuite, je vous parlerai du philosophe que je suis dans le monde d'aujourd'hui. On ferme les yeux et on prend 5 profondes respirations à partir du ventre. Magnifique. Vous voyez, nous avons formé une grande famille invisible et dans le silence, nous avons rencontré l'essentiel de la vie, à savoir la présence, l'ineffable présence, la divine présence qui se trouve partout. Dans l'Église orthodoxe, nous avons l'habitude de réciter cette prière à l'Esprit Saint. Roi céleste, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de bien et donateur de vie, viens, demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Toi qui est partout présent et qui remplit tout. Quand on me demande qui est Dieu, je dis Dieu est la présence ineffable qui est au cœur de toute chose. Nous sommes reliés à un principe de vie époustouflant qui se manifeste dans notre vie de deux manières, devant l'extrême beauté de la vie, lorsque nous sommes saisis par cette beauté, nous nous rendons compte qu'il y a de l'extraordinaire dans la vie et nous n'avons pas honte d'être à genoux, de pleurer de joie et de rendre grâce. Mais parfois aussi, devant le terrible de l'existence, nous avons aussi la manifestation divine à travers une insurrection devant l'insupportable et la réaction indignée de voir ce qui ne devrait pas être et qui malheureusement est. Nous découvrons Dieu dans un surplus de vie ou dans un manque de vie. Je suis un enfant de mai 68 et j'ai vécu dans un monde dévasté qui a totalement perdu le sens de Dieu. On interrogeait un jour le grand indianiste qui était le frère du cardinal Danielou, Alain Danielou, et on lui demandait: si on devait définir l'Orient et la différence entre l'Orient et l'Occident, qu'est-ce que vous diriez ? Il a dit : en Inde, en Orient, on vit encore avec Dieu. L'Occident a perdu ce sens de la vie avec Dieu. J'ai vécu dans un monde où, comme on dit en Roumanie, Dieu faisait partie de la famille. Dieu, je l'ai mangé, je l'ai bu, je l'ai savouré. C'est une infinie saveur dans l'existence. Le monde dont je viens est un monde qui a perdu le sens de Dieu. et qui souffre terriblement de l'avoir perdu. Pourquoi ? Parce que il est ignorant. Lorsqu'on est confronté au monde, on voit le terrible du monde et on peut être tenté de penser que devant le terrible du monde, Dieu n'existe pas. Or, le terrible du monde est la manière dont Dieu se révèle au milieu de l'abîme. C'est quelque chose que Pascal a bien montré. Le silence éternel des espaces infinis m'effraie, dit-il. Il donne le sentiment, ce silence éternel des espaces infinis, que l'homme est seul au monde. Mais s'il n'y avait rien, l'homme ne pourrait même pas avoir le sentiment du terrible. C'est une grâce divine que d'être dépassé par ce qui existe et d'avoir à cette occasion le sentiment de l'extraordinaire. Si la vie est terrible, il y a quelque chose de plus fort et de plus grand que le terrible de la vie, c'est le fait que nous existions. Je disais à mes élèves l'autre jour, il y a deux choses qui montrent l'existence de Dieu. La première, c'est ce que les penseurs ont toujours dit, il est impensable que quelque chose d'aussi beau que le monde soit l'effet du hasard. Et je disais, il y a une deuxième chose qui montre que Dieu existe, c'est l'extraordinaire courage de l'humanité qui vit malgré tout. Normalement, on devrait arrêter de vivre puisque nous allons tous vieillir, souffrir et mourir. Or, nous vivons malgré tout. Maître Eckhart, un grand mystique du XIIIe siècle, disait « La vie est tellement bonne que les pécheurs préfèrent vivre en enfer et vivre que ne pas vivre. » Toute ma génération a cherché Dieu sans s'en rendre compte et l'a cherché à l'envers, d'où des drames terribles. Ma génération ne se rendait pas compte qu'elle avait une soif infinie de Dieu. Elle est allée le chercher là où elle ne pouvait pas le trouver, dans la politique, dans le sexe ou dans la drogue. Et ça s'est terminé par des drames terribles. Mon maître, qui fut Olivier Clément, disait « Les maoïstes de mai 68 sont rentrés en politique comme on rentre au monastère. Ils avaient une soif de Dieu sans s'en rendre compte. » Les intellectuels pensent que Dieu est contraire à l'intelligence. En vérité, Dieu est le cœur de l'intelligence. Toute la grande tradition philosophique, de Parménide au VIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à Bergson, n'a cessé de penser à travers Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui nous fait penser, c'est Dieu qui nous fait vivre. Qu'est-ce qui fait qu'on devient philosophe ? C'est qu'à un certain moment, on se rend compte que la vie banale ne suffit pas. La vie, pour être vécue, a besoin d'être intensément vécue de tout son être. Et c'est ce que veut dire l'expérience de la pensée. L'expérience de la pensée n'est pas une expérience intellectuelle. C'est une expérience de tout notre être qui fait qu'on vit à chaque instant. C'est ce que Nietzsche, grand philosophe, mais athée, recherchait. Il recherchait quoi ? Il recherchait l'homme divin, c'est-à-dire le Christ. Qu'est-ce qu'était l'homme divin pour Nietzsche ? Celui qui vit à chaque instant. C'est ce qu'il appelait la vie quotidienne. Où est le philosophe qui aujourd'hui vit à chaque instant ? Ce philosophe a existé. Il existait dans la Grèce antique. Épictète disait, il y a eu deux hommes divins dans la Grèce antique, c'était Héraclite et Diogène. C'était des hommes, quand on les voyait, on voyait la sagesse, on voyait la lumière, on voyait la sobriété, la simplicité à travers eux. Ils donnaient envie de vivre. Au Moyen-Âge, la grande tradition chrétienne, et il faut rendre hommage à l'Église catholique, a toujours accueilli la philosophie. Et au XIIe siècle, le moine était un philosophe et le philosophe était un moine. Et qu'est-ce que c'était que la philosophie? Qu'est-ce que c'était que le monachisme? C'était la vie divine, celle que recherchaient les Grecs anciens, c'est-à-dire la vie vécue de tout notre être. Qu'est-ce qui fait le cœur d'une civilisation? Ce qui fait le cœur d'une civilisation, ce sont les êtres passionnés, inspirés, qui nous donnent envie de vivre, qui nous donnent envie de penser, et qui à un moment transfigurent tout par leur langage et par les mots. Être philosophe, c'est un style de vie, c'est une pratique de l'existence, c'est une existence en conscience qui donne envie de vivre et qui fait qu'à un moment on illumine tous les domaines du savoir. Tout est passionnant. Il y a quelque chose dans le monde et pas rien. Il y a quantité de choses à chercher, il y a des trésors infinis à dévoiler. Et c'est la caractéristique de l'homme de venir dévoiler ses trésors. On dit souvent que l'homme est un animal de culture, c'est vrai, c'est-à-dire l'homme est fait pour faire grandir et croître tous les arbres du paradis, et les arbres du paradis se trouvent partout. Ils se trouvent dans les atomes, ils se trouvent dans les cellules, ils se trouvent dans la terre, dans le ciel, dans les animaux, dans les hommes, dans la culture, partout. Le monde regorge de richesses et n'attend que nous pour pouvoir développer toutes ces richesses. Et les grands philosophes du Moyen-Âge l'ont parfaitement su. Le monde latin se reconnaît dans cette phrase magnifique « de l'extérieur à l'intérieur et de l'intérieur au supérieur ». Ça, c'est un programme de vie qui donne sens à la nouvelle naissance, celle que recherchait Socrate et celle qu'est venue annoncer le Christ dans l'entretien à Nicodème. L'homme est fait pour la vie, il vient de la vie, il va vers la vie pour plus de vie encore. L'homme est fait pour libérer tous les trésors qui se trouvent dans la création, dans la culture et en lui. Et tout le sens de ce que nous vivons participe de cela. Je trouve magnifique de penser que chaque vie humaine a du sens là où elle est et témoigne de l'existence à sa façon. C'est beau d'être philosophe, mais c'est beau aussi de faire des enfants, et parfois c'est beau simplement d'être malade. Il y a certains malades qui sont tellement extraordinaires dans leur maladie, qui redonnent du courage à toutes les personnes qui sont autour d'eux, qui les vivifient. Notre monde a besoin de retrouver l'essence de l'existence, c'est-à-dire l'enthousiasme, l'émerveillement devant l'existence. Il n'attend que cela. Les maîtres qui ont inspiré notre existence étaient des êtres émerveillés et des passeurs d'enthousiasme qui sont allés faire vivre les grands domaines du savoir, que ce soit les mathématiques, la biologie, la physique, ou bien encore l'histoire, la géographie, l'art, la peinture, la musique. C'est ça que notre monde recherche. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, nous nous éveillons dans l'existence? Ce qui fait qu'à un moment, nous nous éveillons dans l'existence, c'est qu'il y a des grands révoltés, et les grands révoltés, c'est les révoltés de la joie, les révoltés de l'enthousiasme. Ceux qui ont une insurrection contre la tristesse et qui nous montrent l'autre face des choses. Ce qui est merveilleux dans la tradition juive et chrétienne, c'est le sens de l'exégèse, de l'interprétation. Le sens de l'exégèse et de l'interprétation, c'est de voir de l'extraordinaire derrière ce qui semble être de la banalité. Les maîtres qui ont fécondé ma vie m'ont appris à voir. Et ils ont secoué ma paresse, ma médiocrité ou ma tristesse en me montrant que derrière des choses qui me paraissaient limitées, il y avait de l'illimité. Toutes les paroles de l'Évangile sont des bibliothèques. Et je crois que tout l'enseignement du Christ est venu libérer l'infini. Ce qui est extraordinaire dans la vie chrétienne, c'est que tout ce qu'on peut avoir à un moment pensé est vérifié. Les hommes ont parfois pensé qu'il valait la peine d'exister, qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans la vie, et donc ils ont à un moment pensé que peut-être il y avait un Dieu derrière tout ça. Et l'extraordinaire de l'Évangile, c'est que ce que l'homme a pensé, le Christ est venu nous dire que c'était vrai, que c'était réel. Que quand à un moment l'homme va dans l'infini et pense qu'il y a des trésors de vie derrière l'existence, ça n'est pas du tout une idée exaltée, mais c'est une véritable réalité. Ce qui est extraordinaire dans le mystère de Marie qui nous rassemble ce soir, c'est la mutation de l'humanité à partir de Marie. Avant Marie, l'humanité naît de Dieu. À partir de Marie, c'est Dieu qui naît de l'intérieur de l'humanité. C'est un tournant dans l'histoire humaine tout à fait extraordinaire, qui montre que l'homme n'est qu'au début de son histoire et que celle-ci est loin d'être achevée. L'extraordinaire de l'Évangile, c'est de faire vivre ce qu'il y a dans le plus intime de nous-mêmes et de répondre à notre soif. Quand nous sommes face au monde, nous croyons être deux, nous sommes trois. Il y a moi, il y a le monde et il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est plus profond que le moi et le monde et qui est la conscience englobante, capable de tout embrasser. Si cette conscience n'était pas là, on ne verrait rien, ni le monde, ni nous. Il y a donc quelque chose en nous qui nous permet d'exister. Dans l'Antiquité, Aristote a eu l'intuition qu'il y avait quelque chose qui fait que ce qui est ce qu'il est. Et je crois que ce qui est ce qu'il est, ce n'est pas simplement de l'être, c'est de la conscience. Ce n'est pas simplement une conscience, c'est une personne à l'intérieur de moi-même qui veut que je sois une personne. La plus belle définition de Dieu que je connaisse, c'est celle de saint Augustin qui l'appelle la vie de ma vie. Quand il rencontre à l'intérieur de lui-même un autre avec un grand A qui veut que lui devienne lui-même et aille dans la liberté. C'est ce qu'a fort bien compris un grand penseur russe qui s'appelle Nicolas Berdiaïev et qui a dit « Ce qui est le plus extraordinaire au monde, c'est la personne ». C'est-à-dire ce que nous appelons la subjectivité. Et la subjectivité, c'est quoi? C'est la liberté. Et la liberté, c'est quoi? C'est l'intime. Et l'intime, c'est quoi? C'est l'intime qui révèle l'intimité de toute chose et qui tout d'un coup fait résonner à l'infini cet intime. Là, nous comprenons quelque chose de Dieu. Dieu est l'intime de l'intime, comme dit saint Augustin, la vie de notre vie, qui veut développer notre intime et l'intimité de tout à l'infini. Dans cette merveilleuse nuit de prière, nous allons tous rentrer dans l'intime de nous-mêmes pour faire vivre l'intime. Et à un moment, d'une manière douce et fraternelle, apporter au monde ce que le monde a besoin, c'est-à-dire de se nourrir. Le monde autour de nous meurt de soif et de faim, parce que son intime ne vit pas. Il a peur de Dieu parce qu'il a peur des usages politiques qui en ont été faits et qui l'ont complètement déformé. Il ignore qu'il y a un Dieu qui est le Dieu de la liberté. Sartre disait « Si Dieu existe, je ne peux pas être libre parce que je suis simplement la créature d'un créateur et je ne veux pas être la chose de Dieu. » Il a raison. Si l'homme est la chose de Dieu, alors, effectivement, éloignons-nous de Dieu. Mais l'homme n'est pas la chose de Dieu, il est le trésor de Dieu. Et Dieu veut que l'homme devienne l'homme et aille plus loin que lui encore, un petit peu comme les parents sont heureux que les enfants aillent plus loin que eux, parents. Qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à devoir témoigner dans le monde ? Il faut que le monde autour de nous retrouve sa soif et son extraordinaire. Nous vivons des choses qui sont graves au niveau de la famille, au niveau de l'homme, au niveau de l'arrivée des nouvelles technologies qui sont dangereuses. Parce que nous allons chercher Dieu là où il n'est pas. Nous pensons que nous allons trouver Dieu en fabriquant un homme hyper puissant. Et nous ne voyons pas que le véritable homme n'est pas quelque chose qui se fabrique, mais quelque chose qui se vit. L'homme est à la recherche de l'homme vivant, et quand on lui apprend à vivre cet homme vivant, il est émerveillé. Et là, tout d'un coup, la route qui mène vers Dieu et qui mène vers le Christ est tout d'un coup libérée, et l'homme peut être vivifié et nourri de l'intérieur. Le monde a besoin de nous. Il a besoin de notre force, de notre joie, de notre confiance, de notre paix. Je voulais vous dire une chose. J'ai eu deux expériences dernièrement qui ont illuminé ma vie. La première, c'est l'extraordinaire douceur de Dieu. Et la deuxième, c'est des choses qui m'arrivent d'avoir dans la rue en voyant mes frères humains, de ressentir énormément d'amour pour tous ces êtres, en les voyant parfois si malheureux, si mal en point. C'est extraordinaire d'être dans la rue, de regarder ces gens qui souffrent, qui sont gris, qui sont parfois pas très jolis. Et tout d'un coup, si vous avez de l'amour pour ces êtres, comme pour des êtres qui souffrent et qui ont besoin, non pas d'être punis, non pas d'être jugés, mais un moment d'être considérés, c'est extraordinaire parce qu'on est en paix. Et je me disais, c'est extraordinaire, j'ai l'impression d'être en enfer, parce que ce que j'écoute à chaque bulletin d'information, c'est de l'ordre de l'enfer, et je me sens dans une paix infinie. Et j'ai compris une chose, quand Dieu est dans le cœur, il faut s'en faire de rien. Nous pouvons avoir des raisons d'être inquiets devant ce qui arrive dans la civilisation, des choses terribles qui se passent. Et pourtant, je peux vous dire, Dieu ne s'inquiète pas et nous n'avons à nous inquiéter de rien. Parce que il agit dans l'invisible et il fait tout avec une sagesse infinie. Les forces de paix immenses sont là. Nous n'avons à redouter rien du tout, si ce n'est à faire croître et grandir en nous l'arbre de vie qui est à l'intérieur de nous. Je voudrais juste terminer mon propos comme je l'ai commencé. J'ai commencé par une prière à l'Esprit-Saint, je terminerai par une prière à la Vierge. Toi plus vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les séraphins. Toi qui s'entaches, enfant à Dieu le Verbe, toi véritablement mère de Dieu, nous t'exaltons. Amen.